Ni Montaigne ni Descartes n'auraient refusé leur assentiment, mais sans estimer qu'ils fussent engagés par là dans le fond de leur être. C'eût été bien plutôt une excuse facile pour s'adonner à la culture de l'âme sur un plan humblement humain. Monsieur de Sacy ne s'est pas trompé quant à l'intention de Montaigne, reconnaissant que la doctrine divine tient mieux son rang à part comme reine et dominatrice. Il s'autorise de Saint-Augustin pour formuler son verdict, puisque Montaigne met dans tout ce qu'il dit la foi à part, ainsi, nous qui avons la foi, devons de même mettre à part tout ce qu'il dit. Descartes, à son tour, proteste de sa révérence pour notre théologie, et s'interdit d'en soumettre le contenu à la faiblesse de ses raisonnements. L'excellence de la méthode rationnelle est attestée par la conquête progressive du vrai. Au contraire, la révélation divine ne nous conduit pas par degrés, mais nous élève tout d'un coup à une croyance infaillible. Et Descartes prend à cœur de faire observer à l'un de ses correspondants qu'il y a grande différence entre les vérités acquises et les révélées, en ce que la connaissance de celles-ci ne dépendant que de la grâce, laquelle Dieu ne dénie à personne, encore qu'elle ne soit pas efficace en tous, les plus idiots et les plus simples y peuvent aussi bien réussir que les plus subtils, au lieu que, sans avoir plus d'esprit que le commun, on ne doit pas espérer de rien faire d'extraordinaire touchant les sciences humaines. Aux yeux de Montaigne, il ne pouvait rien y avoir de plus vain que cette prétention à l'extraordinaire. Pascal est d'accord. Écrire contre ceux qui approfondissent trop les sciences, Descartes. Mais les motifs de sa condamnation vont bien plus loin. Entre vérité acquise et vérité révélée, il marque cette différence essentielle que les premières s'arrêtent en quelque sorte à la formule de leur énoncé, tandis que les secondes, devront prendre racine en nous pour former la substance de notre vie. Elles n'indiquent pas seulement la route, elles sont comme les rivières, des chemins qui marchent et qui portent où l'on veut aller. Telle est la signification de la parole que Jésus prononce sur lui-même. Ego sum via, et veritas, et viva, évoqué dans le manuscrit des pensées. Le contraste entre la violence tyrannique des passions et les faibles prises de la raison qui la laisse désarmée devant le prestige des sens et de l'imagination va donc se retrouver, comme transfiguré, dans le passage de la norme rationnelle à la transcendance de la sainteté. Rien n'est si semblable à la charité que la cupidité, et rien n'y est si contraire. Le renversement continuel du pour ou contre, qu'implique une aussi paradoxale symétrie, est un caractère essentiel de la dialectique pascalienne, magistralement expliqué dans cette page de l'art de persuader. Personne n'ignore qu'il y a deux entrées par où les opinions sont reçues dans l'âme, qui sont ses deux principales puissances, l'entendement et la volonté. La plus naturelle est celle de l'entendement, car on ne devrait jamais consentir qu'aux vérités démontrées. Mais la plus ordinaire, quoique contre la nature, est celle de la volonté, car tout ce qu'il y a d'hommes sont presque toujours emportés à croire non pas par la preuve, mais par l'agrément. Cette voie est basse, indigne et étrangère. Aussi, tout le monde la désavoue. Chacun fait profession de ne croire et même de n'aimer que ce qu'il sait le mériter. Je ne parle pas ici des vérités divines, que je n'aurais garde de faire tomber sous l'art de persuader, car elles sont infiniment au-dessus de la nature. Dieu seul peut les mettre dans l'âme, et par la manière qui lui plaît. Je sais qu'il a voulu qu'elles entrent du cœur dans l'esprit, et non pas de l'esprit dans le cœur, pour humilier cette superbe puissance du raisonnement, qui prétend devoir être juge des choses que la volonté choisit, et pour guérir cette volonté infirme qui s'est toute corrompue par ses sales attachements. Et de là vient qu'au lieu qu'en parlant des choses humaines, on dit qu'il faut les connaître avant que de les aimer, ce qui a passé en proverbe, les saints, au contraire, disent en parlant des choses divines qu'il faut les aimer pour les connaître, et qu'on entre dans la vérité que par la charité, dont ils ont fait une de leurs plus utiles sentences. L'accès à un amour qui prévient la connaissance suppose que nous ayons été nous-mêmes prévenus. Il a fallu qu'un Dieu se donne à nous pour que nous redevenions capables de nous donner à Dieu. Cercle sacré qu'il n'est pas en notre pouvoir de rompre. Mériter, ce mot est ambigu. Dieu ne doit que suivant ses promesses. Il a promis d'accorder la justice aux prières. Jamais il n'a promis la prière qu'aux enfants de la promesse. Le propre du christianisme, selon Pascal, c'est qu'il ne permet pas de passer par-dessus les vicissitudes du temps pour nous installer d'autorité dans l'éternité divine et nous y rendre témoignage que le chemin du salut est ouvert en droite ligne devant nous. Saint Pierre a péché. Toutes conditions et même les martyrs ont à craindre par l'Écriture. La peine du purgatoire la plus grande est l'incertitude du jugement. Une chose cependant reste possible, nous appliquer à suivre sur la route terrestre les reflets du décret rendu dans le ciel, nous efforcer d'ôter les obstacles pour nous et pour les autres dans un élan de prière et de charité qui, sans présumer la réalité de la cause, pourra dûment aspirer à l'imitation des effets. Voilà pourquoi Pascal ne se contente pas d'être attentif au mouvement de grâce dans le silence du recueillement intérieur. Il prend place au premier rang de l'Église militante, qu'il s'agisse de défendre au-dedans l'intégrité de la foi et des mœurs contre les mauvais chrétiens, ou de travailler à la conversion des libertins. Et dans ces diverses entreprises, le lecteur assidu de Montaigne et le rival de Descartes ne cessent d'accompagner le pénitent augustinien. De là procède le caractère de sa vocation, le prix de son œuvre, et il en a pleine conscience. On lit dans le manuscrit qu'il faut avoir ces trois qualités, pyrrhonien, géomètre, chrétien soumis, et elles s'accordent et se tempèrent. Rédaction qui l'efface pour celle-ci, d'un style moins subjectif. Il faut savoir douter où il faut, assurer où il faut, en se soumettant où il faut. Qui ne fait ainsi n'entend pas la force de la raison. Il y en a qui faillent contre ces trois principes, ou en assurant tout comme démonstratif, manquent de se connaître en démonstration, ou en doutant de tout, manquent de savoir où il faut se soumettre, ou en se soumettant en tout, manquent de savoir où il faut juger. À la lumière conjuguée de ces trois qualités ou principes, se précise la perspective de la pensée pascalienne. Descartes demandait à Montaigne de dissiper les imaginations d'un dogmatisme périmé, de préparer les voies à la loi nouvelle, capable d'atteindre ce qui avait échappé à leur maître scolastique, la rationalité de l'univers, la spiritualité de l'âme, l'évidence de Dieu. Pascal, en dépit de son admiration pour Descartes, finit par abandonner au scepticisme des essais la physique et la métaphysique cartésienne. Une lettre de la folie de la science humaine et de la philosophie. Pourtant, il ne renoncera pas à user des armes que lui fournit le brusque essor de la science positive. De même que le fait de douter implique la certitude du cogito qui nous affranchit du doute, de même Pascal voudra que ces découvertes mathématiques, toutes profanes dans leur source, nous servent à franchir la limite de l'affirmation humaine, à retrouver, pour nous en laisser pénétrer, l'atmosphère des croyances chrétiennes. De ce point de vue, quel que soit le rôle qu'il aurait juré en marge ou au seuil de l'apologie, l'argument du pari présente un intérêt essentiel. Il s'offre à nous sous la forme d'un dialogue, taillé sur mesure, pour un interlocuteur d'un type bien défini, mondain désabusé du monde et mal résigné à vieillir. Que me promettez-vous enfin, car 10 ans c'est le parti, sinon 10 ans d'amour-propre à bien essayer de plaire sans y réussir, outre les peines certaines. Contraint à se divertir, il a pris l'habitude du jeu. C'est même par là que Méret figure en marge de l'histoire de la science. Des questions qu'il adresse à Pascal touchant la répartition des enjeux en cas de partie interrompue sont nées les premières recherches sur le calcul des probabilités. En 1654, dans une adresse à l'Académie parisienne, Pascal soulignait l'alliance stupéfiante de la géométrie et du hasard. Plus étonnante encore sera la démarche qui, continuant à parler le même langage, maintenant les mêmes connexions, se flatte d'en conclure la nécessité de la foi. Vous reconnaîtrez à la fin que vous avez parié pour une chose certaine, infinie, pour laquelle vous n'avez rien donné. Le but de l'argument sera de substituer à l'estimation en quelque sorte horizontale d'enjeux donnés l'un et l'autre dans le tissu de l'expérience ordinaire la disproportion verticale du temps d'existence terrestre et d'une perspective d'éternité où se croisent la menace des supplices infernaux et l'espérance d'une béatitude céleste. La démonstration est parfaitement correcte sous la condition d'avoir accepté deux prémices. D'une part, la différence radicale à l'égard des spéculations métaphysiques concernant l'existence de Dieu ou l'immortalité de l'âme. D'autre part, une dépréciation systématique de la valeur de la vie qui va jusqu'à la rapprocher du néant. Bref, si l'on se réfère à la psychologie d'un Méret, plus encore d'Habiton. Le géomètre ici n'a prise effective que sur le pyrrhonien. Pascal mettra donc à contribution les thèses sceptiques des essais sur la force de la coutume et de l'imagination. Alors que le libertin hésite encore, il lui présente l'exemple de ces chrétiens soumis qui ont dû leur salut à l'efficacité d'un comportement machinal. Suivez la manière par où ils ont commencé. C'est en faisant tout comme s'ils croyaient, en prenant de l'eau bénite, en faisant dire des messes, etc. Le dialogue se poursuit. Naturellement, même cela vous fera croire et vous abêtira. Mais c'est ce que je crains. Et pourquoi? Qu'avez-vous à perdre? L'expression est forte. Elle cesse d'être déconcertante quand on considère que Pascal et son interlocuteur supposé on lut dans l'apologie de Raymond Sebond « Il nous faut abêtir pour nous assagir et nous éblouir pour nous guider. » Qu'ils ont entendu le cri poussé dans le chapitre de la physionomie « Pour Dieu, tenons dorénavant école de bêtises. » C'est l'extrême fruit que les sciences nous promettent. Abêtissement sera donc le contraire d'abaissement, un point de départ pour une ascèse religieuse où c'est Pascal, cette fois, qui marque une progression par degrés. Voici tout d'abord que la machine s'est inclinée. Or, la vertu de l'automatisme fait que l'âme se transforme à mesure qu'elle soutient sa décision de régler la conduite sur l'idée de la morale chrétienne. Vous serez fidèle, honnête, humble, reconnaissant, bienfaisant, ami sincère, véritable. Renouvellement intérieur, dont l'auteur des provinciales s'était appliqué à scruter les conditions authentiques. L'entreprise est périlleuse de ramener l'acte à son attention réelle. Les racines du vouloir sont malaisées à découvrir. Il subsiste une zone d'incertitude qui se prête à l'en-deçà tout aussi bien qu'à l'au-delà. Les saints subtilisent pour se trouver criminels et accusent leurs meilleures actions. Et ceux-ci subtilisent pour excuser les plus méchantes. Ceux-ci, ce sont les docteurs relâchés, entre les mains desquels a dégénéré la tradition sévère de la casuistique. Ils laissent agir la concupiscence et retiennent le scrupule, au lieu qu'il faudrait faire au contraire. Et ce qui devait le plus vivement heurter Pascal, c'est qu'ils prennent la finesse en quelque sorte à rebours. Ils se sont jetés sur la probabilité dont ils ont fait l'instrument d'une politique offensante pour la loi de Dieu, autant que pour la loi des hommes. Non seulement ils rivalisent d'ingéniosité afin de découvrir les endroits par où ils pourront desserrer l'armature rigide d'une conscience chrétienne, mais ils prétendent que leurs découvertes s'accumulent dans le sens d'une indulgence toute proche d'être complice. Chacun peut mettre, nul ne peut ôter. Cependant, il n'est guère besoin de réfléchir pour s'apercevoir que le probable, en raison de l'ambiguïté qui lui est essentielle, se retourne contre l'usage auquel on le destine. Il avait promis la sécurité qu'il n'est pas en son pouvoir de certifier. L'ardeur des saints à rechercher et pratiquer le bien était inutile si le probable est sûr. Les questions se précipitent. Est-il probable que la probabilité assure ? Peut-ce être autre chose que la complaisance du monde qui vous fasse trouver les choses probables ? Nous ferez-vous accroître que ce soit la vérité et que, si la mode du duel n'était point, vous trouveriez probable qu'on se peut battre en regardant la chose en elle-même ? Deux mots suffiront pour trancher le débat. Fausse piété, double péché. De nouveau, Pascal rejoint Montaigne et Descartes. Quand il note, l'expérience nous fait voir une différence énorme entre la dévotion et la bonté, c'est pour se rappeler à lui-même ces lignes des essais. Ruineuse instruction à toute police, et bien plus dommageable qu'ingénieuse et subtile, qui persuade au peuple la religieuse créance suffire, seule et sans les mœurs, à contenter la divine justice. L'usage nous fait voir une distinction énorme entre la dévotion et la conscience. Entre nous, ce sont choses que j'ai toujours vues de singulier accord. Les opinions supercélestes et les mœurs souterraines. Et dans un article des Passions de l'âme, qui, par sa finesse et sa vigueur, évoque le Typhon platonicien en faisant pressentir le Tartuffe, Descartes tient à démasquer « ceux qui, croyant être dévots, sont seulement bigots et superstitieux, c'est-à-dire qui, sous ombre qu'ils vont souvent à l'église, qu'ils récitent force prières, qu'ils portent les cheveux courts, qu'ils jeûnent, qu'ils donnent l'aumône, pensent être entièrement parfaits et s'imaginent qu'ils sont si grands amis de Dieu qu'ils ne sauraient rien faire qui lui déplût et que tout ce que leur dicte leur passion est un bon zèle, bien qu'elle leur dicte quelquefois les plus grands crimes qui puissent être commis par les hommes, comme de trahir des villes, de tuer des princes, d'exterminer des peuples entiers, pour ceux-là seuls qui ne suivent pas leurs opinions. » La voie est ainsi tracée, et c'est en se tournant vers l'arbitrage des honnêtes gens que Pascal obtiendra le succès inouï des provinciales, succès dans l'art profane d'agréer et de persuader, qui par cela même risque de laisser s'interférer deux conceptions de la vie entre lesquelles il importe pourtant de souligner le point décisif de rupture.